Bienvenue dans ce podcast établi par l'équipe de l'INSEAC, l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle. L'INSEAC du CNAM.
Le 15 février 2024, l'Institut National Supérieur de l'Éducation Artistique et Culturelle a accueilli deux musiciens de l'Orchestre National de Bretagne pour un atelier autour de la musique classique.
Bonjour à toutes et tous, on va vous dire juste un tout petit mot avant d'accueillir les musiciens. Donc moi je suis Céline Larrière, vous me connaissez déjà, je suis directrice du théâtre Chouchouroi, et Isabelle Bigot qui est en charge de la médiation au sein de l'Orchestre National de Bretagne. Donc on accueille aujourd'hui et demain deux musiciens qui vont se présenter à vous de l'Orchestre National de Bretagne, et ça se fait dans le cadre d'un partenariat qu'on a depuis pas mal d'années avec l'orchestre. Et donc cette année, par exemple, sur Guingamp, on accueille traditionnellement chaque année un concert de l'orchestre. Cette année, c'était au mois de décembre avec Viviane Hagner, violoniste. Et puis, on a tout un projet cette année de résidence en milieu scolaire avec le collège Jacques Prévert, donc un projet autour du journalisme et de la découverte des métiers de l'orchestre. Et on a demandé à des musiciens de venir faire, Isabelle va vous présenter, des rencontres musicales et d'aller à la rencontre des élèves de classe élémentaire, de collège, de lycée, d'étudiants comme vous, d'étudiants et d'étudiants, pour découvrir un peu mieux la musique symphonique. Donc on ne sait pas quel est votre niveau de connaissance de la musique symphonique, mais ça, on va le faire, on va voir ensemble, ils vont s'adapter aussi à vos envies, à ce que vous avez envie de découvrir. Si tu veux dire un petit mot sur ces
rencontres. Vous expliquez un peu le concept des rencontres musicales. Il s'agit de petits concerts de musique de chambre. Donc la musique de chambre, ça signifie un ensemble de musiciens composé de 2 à 8 musiciens. Voilà, donc c'est des concerts plutôt intimistes, sur un format de 30 minutes de musique et 30 minutes d'échange. C'est une manière assez détendue et informelle de découvrir la musique classique. Donc là, je dis, on va accueillir 2 musiciens de notre orchestre, que je vais laisser, ils vont se présenter eux-mêmes, donc deux cordistes.
Alors bienvenue et merci de nous accueillir dans vos si beaux locaux. Très intéressant. Je vous présente Olivier Lacour, violoncelle solo de l'Orchestre National de Bretagne. Et je suis Cyril Robert, l'alto solo de l'Orchestre National de Bretagne. Tout le monde m'entend, c'est bon? Il y a un petit peu de fatigue. Voilà. Alors déjà, je vous prie de m'excuser si mes mots, des fois, sont un peu pas adaptés à votre public. Parce qu'on fait beaucoup des petits. Et là, c'est la première fois, pour moi, c'est la première fois où vous êtes assez... Vous êtes plutôt adulte, donc il faudra bien en vouloir. Hein, parce que j'ai des exemples des fois qui sont peut-être un petit peu puérils, mais ce n'est pas du tout pour vous choquer, c'est parce qu'on a l'habitude d'expliquer à vos jeunes élèves de primaire comment ça fonctionne et ce qu'on a à apporter. Vous êtes au fait de ce qu'est l'orchestre symphonique ou pas?
Non.
Ah, déjà là. On a le droit de dire non, sans que les autres se moquent, c'est bien, parce que pour deux petites places, ils n'osent pas non plus. On va... Donc non, au plus moment qu'il y a une personne, on va expliquer. L'orchestre symphonique, c'est la réunion de, en ce qui nous concerne, l'Orchestre National de Bretagne, qui est votre orchestre, puisque c'est l'orchestre de la région Bretagne. Notre salle, c'est la Bretagne. Ça comporte, hein, les 4 départements et les nombreuses villes. L'orchestre symphonique, c'est une réunion des instruments à cordes frottées, avec un archer. Ah, j'ai donné la réponse à la question que j'avais posée après. Zut. Des cordes frottées comparées aux cordes frappées du piano, qu'il n'y a pas dans l'orchestre, ponctuellement, mais pas de façon régulière, et aux cordes pincées, que sont la guitare et le clavecin qu'on a de temps en temps à l'orchestre pour la période baroque, guitare que nous avions la semaine dernière en soliste, et qui ne fait pas partie d'un effectif d'orchestre symphonique. Voilà. Donc des cordes frottées. Derrière, vous avez les vents, plutôt bois que l'arrière de basson corps, trompette, trombone, c'est bon? Donc des instruments qui fournissent le son grâce au vent, donc au souffle, et derrière, les percussions, bruit résultant de tout corps frappé sur un autre. Voilà. Donc ça peut être des gros fûts appelés les timbales, des gros fûts en cuivre, des timbales, une espèce de gros tambour énorme, la grosse caisse, la caisse claire, comme vous avez dans les batteries fanfares, dans les défilés et compagnie. Voilà, les instruments à lame aussi, lame de bois pour le xylophone, lame en métal pour le vibraphone, marimba en bois, le glockenspiel en ferraille, les petites lamelles comme un carillon, comme on a joué des fois à l'école ou en début de solfège quand on a commencé un peu au conservatoire, on a joué du carillon. Voilà.
C'est bon, vous êtes, et le tout dirigé par un chef d'orchestre. Jusque-là, c'est bon, j'ai resitué un petit peu. Voilà. L'Orchestre National de Bretagne, comme tout orchestre symphonique, se produit dans des œuvres écrites classiques de la période de Bach, éventuellement un petit peu avant, mais surtout Bach à nos jours, donc des compositeurs contemporains qui ne sont pas contemporains, donc pas décédés déjà. La mission de l'Orchestre National de Bretagne, c'est aussi de se diversifier grandement en accompagnant des artistes de variété. On a eu l'occasion d'accompagner Jay Birkin. Et aussi de la musique complètement décalée, comme la musique bretonne, les concerts de jeux vidéo, du rock, du jazz aussi, qui n'est pas vraiment de la musique classique, mais qui est un pan de la musique classique, la musique sage vivante, même plutôt profane, puisque le jazz c'est plutôt contemporain. Voilà, j'ai à peu près tout dit. On va jouer un petit peu. La facture d'instrument. Intéressant de savoir ce qu'on peut ressentir en écoutant une fugue, en fait. Effectivement, la fugue, on pense tous,
Je ne dirais pas que ça inspire forcément une musique particulière, mais j'ai l'impression qu'il y a une logique de dynamisme un peu. Comme si vraiment il se passait forcément quelque chose de physique. C'est-à-dire que ce soit justement un papillon qui vole, ou alors une foule qui se déplace, ou une danse, en fait, il y a quelque chose de très, justement, de très physique, de très dans l'action, en fait, dans cette musique.
Oui, c'est exactement ce qu'exprimait Olivier tout à l'heure. L'animation juste avant, c'est qu'en fait c'est une des rares, on va dire la seule pièce de notre programme, mais et surtout Bach, c'est un des rares compositeurs où en fait on joue tout le temps. Là on s'arrête quasiment jamais, à part au début où Olivier commence tout seul, après ça ne faut pas. Vous avez toujours une succession de double croches, c'est bien technique, mais vous avez toujours le ta 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 je vais pouvoir me reposer un petit peu, une petite mesure, et puis reprendre. Là, ça s'enchaîne tout le temps. Comme un mouvement perpétuel, par exemple. Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'au niveau de la fugue, on pense souvent au chat et à la souris, en fait. Quelque côté, là, je te rattrape, mais tu reviens. Dans une gérie un peu, chose un peu comme ça. Effectivement, une notion de mouvement. On va explorer une autre vision du duo, par un compositeur que vous connaissez forcément. Non, me dites pas que vous connaissez forcément. Et je vais vous dire juste un trait de caractère, un trait physique que personne n'ignore, il était sourd. Ah, dommage. Beethoven, vous connaissez forcément tous, j'en suis sûr et certain, une œuvre de lui. Bon là, on ne va pas vous faire la cinquième de Beethoven. On va vous faire un duo que Beethoven a écrit au moment où il commençait à perdre la vue. Oui, bah oui.
Thank you.
bien.
Alors, nous, contrairement aux instruments avant, on peut jouer en apnée. Ce sera moche parce que le corps respire pas, mais en gros, on peut le faire. Quand on respire, tu respires quand, toi?
Des fois, on se note, oui, des respirations, oui. Sur des passages. On a, à la fin d'une section, à la fin d'une phrase musicale, on va... Si disons, le temps de respiration dépasse un tout petit peu ce qui serait vraiment... métrique, enfin, ou écrit, éventuellement on se le note pour se mettre d'accord, pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui va redémarrer avant l'autre. Ouais. Mais sinon, on respire ensemble, on le sent ensemble, mais on respire effectivement, on se force quand même, nous, en tant qu'instrumentiste à cordes, à malgré tout respirer à la fin des phrases ou inspirer pour que musicalement, justement, ça soit cohérent, parce qu'effectivement, on pourrait continuer de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis en respirant indépendamment, enfin voilà, physiquement, mais c'est important de se mettre un peu dans la logique aussi des instruments avant et de respirer un peu comme eux. Alors pas pour reprendre de l'air, mais juste parce que ça aide aussi à séparer les phrases musicalement. Et pour l'auditeur aussi, c'est important de sentir quand les gens respirent, parce que sinon l'auditeur aussi, il est un peu coincé, il est un peu en apnée quand il sent quelqu'un qui enchaîne tout, qui enchaîne tout, qui enchaîne tout. Il ne se sent pas bien non plus, quoi. Donc c'est important aussi de créer ces moments de...
Tout à l'heure, vous avez expliqué que vous étiez dans un collège tout à l'heure. Pourquoi c'est important pour vous d'aller jouer auprès de collégiens?
Vous entendez beaucoup de musique classique à la télé, ou à la radio, et tout? Vous en entendez beaucoup? D'accord. Vous trouvez les concerts accessibles pour les enfants? Vous trouvez que l'éducation musicale est bien réalisée, que les enfants s'inscrivent dans les conservatoires et qu'il n'y a vraiment plus de place parce qu'il y a trop d'élèves? Vous croyez vraiment que vos petits voisins, tous les petits-enfants que vous avez croisés dans la rue, vous leur mettez un titre, vous mettez un instrument, ils peuvent vous dire typiquement ce que c'est, comment ça joue, comment ça se fait, si voilà. Voilà, je pense que vous avez la réponse. On fait un métier qui est en perdition. Par un État qui nous crée en perdition. Attention, on ne va pas parler de ce qui nous avoir sauvés pendant le Covid et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais on ne fait rien pour développer la culture. La culture, en tout cas la musique classique. Moi, je trouve qu'on ne fait pas grand-chose. Et on en parlait encore ce midi, les prix des places sont hors de prix. Ça s'adresse forcément à une catégorie de personnes. Si vous n'avez pas un revenu minimum et un salaire minimum, et surtout une dose d'argent pour les loisirs suffisante pour vous payer une place de concert, vous n'irez pas. Et de toute façon, on ne vous éduque pas à aimer, on ne vous donne pas envie d'y aller. Parce que les médias n'en diffusent pas, parce qu'on ne fait pas de pédagogie au public. Ben moi, je trouve que si pendant une heure, on peut leur expliquer ce que c'est de la musique classique, vite fait, hein, parce que finalement, on ne touche à pas grand-chose par rapport à l'étendue de la musique classique, mais si des gens qui n'ont pas la chance d'y aller ont l'opportunité de connaître ça au moins une heure dans leur vie, eh bien, moi, je suis content. Voilà. Moi, ça me remplit et ça me... Ouais, on peut dire que ça remplit ma journée. Puis pendant une heure, on leur rebattra pas les oreilles avec des Nakamura, des Aya, ou je sais plus trop quoi, des trucs, de la télé-réalité et compagnie. Au moins, ils auront peut-être un minimum de culturel, en tout cas d'un milieu culturel qui me concerne. Hein. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres cultures possibles, hein. Il y a les musées, il y a plein de choses. Pendant une heure, on leur parlera de choses auxquelles ils n'ont pas accès à cause de nos médias et de la façon dont on traite la culture en France. Pardon, c'était pas un coup de gueule, c'était juste mon avis.
Merci.
Je vous en prie, mais Olivier peut-être répond aussi.
Non, mais c'est...
Vous avez lancé son propos, c'est vraiment les services d'action culturelle et d'enquête. Je suis la représentante pour la MED. Les enquêtes sont nées d'une volonté politique. C'est grâce au plan Landowski, peut-être que vous l'avez étudié en cours, l'histoire des politiques culturelles en France, c'est vraiment la volonté d'un homme d'apporter la musique sur tous les territoires français. Donc, comme les maisons de la culture, des orchestres sont nés de certaines manières. Il fallait créer un orchestre par région pour faire connaître les grandes œuvres du répertoire musical européen et aussi défendre la création des orchestres. C'est ça, donc, d'avoir un orchestre de haut niveau au plus proche du maire. Après, est-ce qu'aujourd'hui on a toujours cette volonté aussi forte? C'est une question. Dans tous les cas, les services d'action culturelle se sont énormément développés et il y a énormément de dispositifs qui existent autour des orchestres, notamment Demos, que vous devez connaître, porté par la Philharmonie de Paris. Donc, c'est un orchestre comme le Système A, enfin, c'est ça, Alexandre, en Amérique latine, qui apprend à des enfants défavorisés le métier de musicien d'orchestre. Il commence par l'orchestre naturellement, il fait ça pendant 3 ans, c'est gratuit. Il y a aussi les orchestres à l'école, les classes orchestres, les chambres, il y a énormément de dispositifs autour des orchestres, justement pour amener toute cette population, toute sa diversité, à mieux connaître ce patrimoine commun et s'en emparer. Enfin, mais c'est, comme toujours dans l'action culturelle, c'est une question d'engagement, dans le sens que ce n'est pas des choses qui sont acquises, elles ne le sont jamais. Et donc il faut des gens pour incarner cette politique au quotidien. Et si on ne tient pas ce cap, ça peut nous échapper. Voilà. Vous allez, j'imagine, vous êtes bien au courant.
Si vous avez aimé ce podcast, faites-le nous savoir avec un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé de nos prochaines diffusions. Merci de votre écoute. Transformez une expérience en émotion. L'INSEAC du CNAB.